Je vois déjà des gens sourire dans... Je vois déjà sourire, ça me fait sourire. Je suis ton père. Vous reconnaissez sûrement cette réplique de Star Wars. Très connue, je pense que quand on pense à Star Wars, il y a un moment donné ou l'autre cette réplique qui nous vient en tête. Pourquoi est-ce que cette réplique est surprenante ? Parce qu'à ce moment-là du film, Luke Skywalker est en train de combattre pour le bien, tandis que son père, Dark Vador, est lui du côté du mal. Et on est très loin finalement de l'expression qu'on connaît bien, tel père, tel fils. Là où normalement un enfant ressemble à son père, que ce soit physiquement ou dans certaines expressions, dans ses valeurs ou peut-être même dans sa manière de vivre, ici, il n'y a pas vraiment de ressemblance. Tout les oppose. Le passage d'aujourd'hui revient sur deux thèmes déjà rencontrés dans cette lettre. Notre relation au péché et notre amour pour les autres. Mais là où l'apôtre Jean l'avait traité précédemment sous l'angle de notre communion avec Dieu, ici, il va le traiter sous l'angle de notre filiation avec Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, alors une question se pose. Est-ce que nous lui ressemblons ? Est-ce que dans notre manière de vivre, nous reflétons Jésus-Christ ? Est-ce que ça se voit dans notre rapport au péché et aussi dans notre amour pour les autres ? Je vous invite tout de suite à prendre la lecture de ce passage de 1 Jean, chapitre 3, les versets 1 à 18. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. En effet, le message qui vous a été annoncé, que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué ? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Dans ce texte, Jean nous propose en quelque sorte deux tests de ressemblance. Le premier, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous ressemblons à Christ en ne péchant pas ? Alors ici, il serait facile de tomber dans une sorte de message moralisateur. Fais des efforts, arrête de pécher, sois meilleur. Mais ce n'est pas du tout l'idée de Jean. Parce que la question de fond concerne notre motivation. Pourquoi est-ce que je lutte contre le péché ? Est-ce que je le fais pour mériter l'amour de Dieu ? Ou est-ce que c'est parce que je suis déjà aimé et que je veux répondre à cet amour ? Et Jean commence justement par là, verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés pour que nous soyons appelés ses enfants. John Stott souligne que littéralement, Jean est en train de dire quelque chose comme « Voyez de quel pays nous vient cet amour ». C'est un amour qui ne ressemble à rien de ce qu'on peut connaître ici-bas. C'est un amour qui vient d'ailleurs. Et un tel amour étant la source de notre nouvelle identité d'enfant de Dieu, l'apôtre met désormais le focus sur deux grandes motivations à vivre comme Jésus. Cette première motivation regarde vers le futur. Jean nous rappelle qu'un jour, Jésus va revenir. Et ce jour-là, verset 2, nous le verrons tel qu'il est et nous serons transformés pour lui ressembler parfaitement, sans péché, totalement pur. Et Jean affirme, quelque part, si cette espérance est réelle pour nous, alors elle devrait changer déjà maintenant notre manière de vivre. C'est un peu comme un athlète à qui on dirait, un jour, tu gagneras les Jeux Olympiques. C'est sûr à 100%. Cet athlète ne va pas rentrer chez lui, enfin j'imagine qu'il ne va pas rentrer chez lui en s'affalant sur son canapé et en commençant à manger n'importe quoi. Non, dès aujourd'hui, il va commencer à ajuster sa vie, son alimentation, son sommeil, son entraînement. La question donc à se poser est celle-ci. Est-ce que cette rencontre à venir avec Jésus change quelque chose dans ma manière de vivre aujourd'hui ? Est-ce que cette espérance me motive à vouloir ressembler à Christ dès aujourd'hui ? Si la première source de motivation regardait vers le passé et la venue future de Christ, la seconde source de motivation regarde vers le passé. La première regardait vers le futur, la deuxième regarde vers le passé. Jean nous rappelle pourquoi Jésus est venu une première fois. Dans les versets 4 à 6, et 7 à 9, il y a une sorte de parallélisme. Dans 4 à 6, Jean nous rappelle la nature du péché. Le péché, nous dit-il, c'est une révolte contre Dieu. C'est une désobéissance à sa loi, à sa volonté. Et Jésus est déjà venu une première fois pour enlever nos péchés. Et dans les versets 7 à 9, Jean met le focus sur l'origine du péché. Et il nous rappelle qu'elle est attribuée au diable, le premier être à s'être révolté contre Dieu. Et là aussi, Jean nous dit, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, si Jésus, qui est sans péché, est venu pour enlever le péché et détruire le mal, comment pourrions-nous continuer à vivre tranquillement dans le péché? Et là, Jean affirme des choses très fortes. Verset 6, « Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. » Verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché et il ne peut pas pécher. » Il y a quelque chose de déstabilisant parce qu'honnêtement, qui parmi nous ce matin pourrait affirmer « Moi, je ne pêche jamais. » Et puis, si on remonte à ce que Jean disait au chapitre 1, il affirmait l'inverse. Chapitre 1, verset 8, « Si on prétend ne pas avoir de péché, on se trompe nous-mêmes. » Alors, est-ce que Jean est en train de se contredire ici? Non, je ne le crois pas. Au chapitre 1, et c'est là toute l'importance de lire les versets dans leur contexte, au chapitre 1, Jean parle aux faux enseignants qui niaient la réalité du péché. Au chapitre 3, Jean continue de cibler ces faux enseignants qui nient la gravité du péché. Au chapitre 1, Jean dit « Nous sommes assurés d'être pardonnés quand on confesse notre péché. » Au chapitre 3, « Nous sommes encouragés à ne pas prendre le péché à la légère parce qu'il offense notre Père. » En fait, dans nos vies, on a besoin de ces deux éléments. On doit les tenir ensemble en équilibre. Pour illustrer cela, on pourrait dire que un vrai pianiste peut parfois jouer une fausse note, mais il ne peut plus supporter de jouer faux à long terme. C'est pareil pour un enfant de Dieu. Oui, il peut tomber, il peut chuter, mais il ne peut plus vivre dans le péché comme si c'était quelque chose de normal, quelque chose de confortable. Plummer disait « Quoi que le croyant pêche quelquefois, ce n'est cependant pas le péché, mais l'opposition au péché qui est le principe dominant de sa vie. » Notre théologien, Jean Calvin, plus connu sûrement, a dit « Cela ne signifie pas que les chrétiens soient totalement libérés de tout vice, mais qu'ils s'efforcent de tout cœur de conformer leur vie à l'obéissance envers Dieu. » Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau en nous, qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu. Jean parle un petit peu plus loin de la semence de Dieu qui est en nous, dans la vie de ses enfants. On pourrait dire son ADN. Et cet ADN crée une incompatibilité. On ne peut plus vivre continuellement dans le péché sans être dérangé intérieurement à un moment donné. Nos désirs ont changé. Et même si on n'y arrive pas toujours, au fond de nous, on aspire à ce qui est juste, à ce qui est bon, à ce qui plaît à Dieu. C'était le premier test de ressemblance en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que nous ressemblons à Christ en ne péchant pas? Le deuxième test que Jean nous propose est celui-ci. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous ressemblons à Christ en aimant les autres? Et ici, l'apôtre Jean commence quelque part avec un contre-exemple. Il parle de Caïn. Pourquoi Caïn ? Parce qu'il nous ramène au tout premier meurtre de l'humanité, mais surtout au fait que ce tout premier meurtre était un premier meurtre entre frères. Caïn et Abel. Deux frères qui représentent dans la Bible deux manières de vivre. Et Caïn n'a pas supporté la bonne manière d'agir de son frère Abel. Résultat, jalousie, haine et pour finir, meurtre. Jean veut nous faire comprendre deux choses ici. D'abord, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas être surpris si parfois faire le bien ou faire ce qui est juste attire la haine de certaines personnes. C'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus lui-même. Il a été rejeté et mis à mort alors qu'il n'avait rien fait de mal. Donc, c'est normal si cela nous arrive. Jésus nous a aussi prévenus sur ce point-là. Mais Jean ne s'arrête pas là. Il veut aussi nous mettre en garde contre cette haine présente en chacun de nous et ce vers quoi elle peut nous conduire, le meurtre. Alors on pourrait dire, oui mais moi, j'ai jamais tué personne. Mais Jésus, dans son serment sur la montagne, dans Matthieu 5, va beaucoup plus loin. Il dit que le problème n'est pas tant extérieur, mais qu'il vient du cœur. Ce qui est à la racine du meurtre, c'est la colère, c'est la haine. C'est ce moment où, dans une dispute avec quelqu'un, on se dit quelque part, intérieurement, franchement, j'aimerais tellement que cette personne disparaisse. La jalousie, l'amertume, l'esprit de rivalité, tout ça, quelque part, ça ressemble déjà à l'attitude de Caïn. Et Jean affirme que c'est à l'opposé de ce que Jésus a fait. Lui, il n'a pas pris la vie. Jésus a donné la sienne. Je relis le verset 16. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Voilà ce deuxième test de ressemblance. Est-ce que je reflète Christ dans ce domaine de l'amour dont de soi? Aimer dans la Bible est bien plus qu'un sentiment. C'est bien plus que dire « je t'aime » ou « je pense à toi ». Aimer, c'est se donner. C'est un amour qui coûte quelque chose. Et Jean, bien sûr, veut rester très concret et il précise donc que cet amour ne se limite pas à des paroles. Il se manifeste dans des actes concrets. Il y a quelques jours, j'ai vu un film tiré d'une histoire vraie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Le 12e homme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un soldat norvégien est traqué par des Allemands. Il est blessé et se retrouve seul, en fuite. Et tout au long de son chemin, d'autres Norvégiens vont le croiser. Et ils auraient pu certainement dire quelque chose comme « Bon courage, on est de tout cœur avec toi ». Mais non, on voit dans ce film combien ces personnes ont risqué leur vie pour lui. Ils l'ont caché, ils l'ont soigné, ils lui ont donné à manger, ils l'ont aidé à avancer un petit peu plus loin. Ils l'ont, d'une certaine manière, aimé, concrètement. Dans son témoignage de sa vie, cet homme dira d'ailleurs que ce n'est pas lui le héros, parce qu'il a finalement rejoint la Suède, qui était un pays libre, mais toutes ces personnes qui ont œuvré à le garder en vie. Alors si des personnes ont été capables de cela pour un compatriote, à combien plus forte raison cet amour concret devrait se manifester dans la famille de Dieu, dans l'Église, entre frères et sœurs, et même au-delà. Quand on pense à cela, on peut vite se sentir dépassé. Il y a tellement de besoins dans le monde. Mais Jean nous ramène encore une fois à quelque chose de simple. Il nous dit à chacun, quelque part, « Commence là où tu es, avec les personnes qui sont là présentes autour de toi. » Ce frère, cette sœur qui est là juste à côté et qui est peut-être dans le besoin. Et si ce matin on priait simplement « Seigneur, montre-moi qui je peux aider concrètement cette semaine. » Partager un repas, donner des vêtements, héberger chez moi, aider financièrement, donner du temps ou un coup de main. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qui se fait déjà dans notre communauté ici à Creil. Je rends grâce à Dieu pour cet amour en action qui se manifeste déjà. Aimer, c'est un verbe d'action. Refléter Christ dans son amour pour nous signifie avoir des oreilles ouvertes, des yeux ouverts et des mains ouvertes pour celles et ceux qui sont dans le besoin. Je termine en regardant encore qu'une fois que Jean ne laisse pas de place au flou. Je ne sais pas si vous avez remarqué encore dans ce passage, mais Jean trace des lignes très claires. D'un côté, il y a Dieu comme père, de l'autre côté, le diable comme père. D'un côté, la lignée de Christ, de l'autre, celle de Caïn. D'un côté, pour les enfants de Dieu, la vie éternelle, de l'autre, pour les enfants du diable, la mort éternelle. Et la question que ce texte nous pose aussi, est assez simple mais fondamental. Qui est ton père ? La réalité, c'est que nous naissons tous dans la famille de droite, séparés de Dieu. Par nature, personne ne fait partie de cette famille. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de la rejoindre. Jésus-Christ est venu une première fois pour enlever le péché, pour vaincre le diable et pour offrir à chacun l'accès à Dieu notre Père. Aujourd'hui, si nous faisons partie de cette famille de Dieu, nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, cette famille de Dieu est accessible. Si ce matin tu as des doutes sur ta filiation, est-ce que je peux t'encourager à ne pas rester avec ces doutes et peut-être à venir m'en parler ou en parler avec Henri à la fin de ce culte? Dans tous les cas, quand Jésus reviendra, je prie pour que chacun ici entende Dieu lui dire « Je suis ton Père ». Amen.